J'ai aussi trouvé que c'était une tâche décidément difficile de rendre compte en une vingtaine de minutes de la réflexion d'Alain Mercier, de son œuvre, dans le chassé-croisé entre théorie des situations didactiques de Brousseau et théorie anthropologique du didactique de Chevalard, à travers et au départ desquelles sa réflexion très personnelle s'est construite. Alors, je devais être étourdie aussi le jour où on m'a proposé une telle tâche.
C'est moi qui te l'ai proposé, d'ailleurs.
Je pense. J'étais étourdie, j'ai accepté, mais aussi j'étais contente de l'accepter, parce que c'est une manière pour moi de manifester ma gratitude envers Alain. Et les nombreux échanges que mes collaborateurs et moi-même, nous avons eus avec lui en Belgique, et échanges qui ont contribué à notre formation en didactique. Pour relever le défi, sans empiéter sur les plates-bandes des autres orateurs de cette journée, j'ai choisi de vous faire sentir, par quelques coups de sonde et au plus près des textes d'Alain, en quoi l'articulation de ces deux théories majeures de la didactique lui a permis de problématiser des questions fondamentales que sa pratique de professeur et de formateur l'a amené à se poser. Et j'irai pour cela de son HDR sur l'espace-temps didactique à son article intitulé « Pour une lecture anthropologique du programme didactique » paru en 2008 dans la revue « Éducation didactique », en passant par deux de ses articles dans « Recherche en didactique des mathématiques » qui portent l'un sur l'approche biographique de l'élève et les contraintes temporelles de l'enseignement dont Alain vous a parlé, et l'autre sur la participation des élèves à l'enseignement. Son article publié dans la revue des sciences de l'éducation sur la création d'ignorance comme condition de l'apprentissage à l'école, sa participation à un symposium du réseau d'éducation francophone sur la place du cognitif en didactique, dont Alain vous a parlé également, ainsi que sa brillante note de synthèse dans la revue française de pédagogie sur la transposition didactique comme théorie de l'espace didactique. Alors, la biographie dont Alain nous a livré quelques épisodes majeurs, en particulier sa pratique d'enseignant et de formateur, l'a poussé à identifier très tôt l'indissociabilité de deux questions. D'un côté, la question de l'étude et celle associée de la réussite autant que celle de l'échec. Et de l'autre, la question de la direction de l'étude. Toutes deux envisagées dans leur dimension individuelle et sociale. En ce qui concerne la première, voici comment Alain la présente avant toute problématisation. L'échec, qui est le risque de toute étude, pose problème. Mais la réussite n'est pas dans son principe moins incompréhensible. Elle pose deux fois problème. Dans sa dimension individuelle, un tel apprend ce que savait tel autre, ou tel autre peut reconnaître son savoir dans celui d'un tel, comme dans sa dimension sociale, tous apprennent à peu près la même chose et chacun reconnaît son savoir dans celui des autres. C'est pourquoi le lien du professeur à l'élève est sans doute l'objet premier de toute recherche sur l'enseignement et l'apprentissage. À propos de sa deuxième question inaugurale, il dit ceci, « La direction d'études nomme alors le second problème didactique posé ici. Peut-on imaginer qu'il soit possible à un professeur d'apprendre d'un autre professeur les manières du signalement efficace ? Ou faut-il penser qu'elles sont relatives au rapport de chacun d'eux au contenu disciplinaire qu'ils désignent, à ses classes et à leurs élèves ? Alors, l'ambition d'Alain est grande. Traiter ces deux questions, c'est-à-dire l'enseignement et l'apprentissage des mathématiques, dans un même espace de problématisation, en se défiant des allants de soi du réel et des prêt-à-penser institutionnels. Car il pense, à l'instar de Bachelard, que la naturalisation de l'existant constitue sans doute le premier des obstacles épistémologiques. Ce qui pour lui nécessite l'abandon de deux positions ordinaires du mode de pensée commun. D'une part, chercher l'essence des choses et des êtres, et d'autre part, les amalgamer en une même essence. Sa rigueur méthodologique n'est pas moindre, tant il se montre sensible à l'explicitation des présupposés que contient toute approche théorique, pour permettre l'identification des points aveugles que suppose le regard qu'elle induit. Dans cette entreprise, Alain Mercier perçoit très vite qu'un nouveau champ de recherche, qu'on appelle didactique des mathématiques, permet d'investiguer les caractéristiques de l'espace didactique, soit, je le cite, l'espace des stratégies possibles pour des acteurs définis par ces formes de rapport aux objets de savoir que l'on nomme enseigner et apprendre. Et ainsi d'enquêter à nouveau sur un métier qu'on appelle éduquer, dont la complexité est reconnue et qui a pu décourager des investigations plus approfondies, au point d'avoir été qualifié par Freud de métier impossible, au même titre que soigner et gouverner. Alain n'est pas dupe cependant que si la didactique ouvre un questionnement sur des points aveugles pour d'autres recherches en éducation, elle-même en crée et précise, pour illustrer son propos, que seule une approche microsociologique ou psychosociologique peut mettre à jour certains phénomènes scolaires. Pour mener à bien la problématisation de ces questions inaugurales, Alain Mercier participe donc à cette rupture épistémologique que représente la didactique par rapport à d'autres sciences de l'éducation, non seulement par son intérêt porté au savoir en jeu et à ses spécificités épistémologiques, mais aussi par l'adoption d'une posture non prescriptive, ainsi que par l'intérêt porté aux relations plus qu'au terme même en relation. Ainsi dit-il, en référence aux travaux de Marie-Hélène Salin, les stratégies d'élèves observées en classe sont interprétées comme les effets de la relation entre des élèves et des exercices scolaires. Et surtout, d'entrée de jeu, Alain pense institution en caractérisant le questionnement didactique par la prise en compte théorique de la triple dimension d'une institution didactique pensée comme l'organisation productrice de et produite par la rencontre de trois institutions sociales, enseignantes, apprenantes, savantes. C'est dans cette perspective qu'il faut penser sa méthode de biographie didactique, que celle-ci porte sur des parcours d'élèves ou des parcours de professeurs. En effet, ce ne sont pas des différences ou des similitudes de pratiques individuelles qui sont l'objet d'études dans cette méthode, mais des parcours d'individus en tant que révélateurs du fonctionnement des institutions dans lesquelles ils évoluent, en l'occurrence des institutions didactiques auxquelles ils s'assujettissent avec plus ou moins de bonheur. Car si dans l'étude de ces questions inaugurales, Alain Mercier joue conjointement sur la dimension individuelle et la dimension sociale, c'est dans l'idée d'intégrer à l'étude de l'action la part des assujettissements inconnus de l'acteur lui-même, part qu'il estime à l'époque insuffisamment gérée par les sciences de l'éducation, qu'il la juge maudite en ce qu'elle ne permet pas de poser le problème de la responsabilité des personnes. Et c'est bien dans cet esprit qu'il étudie, dès les années 80, des élèves dont l'échec sélectif en mathématiques relève de pathologie du contrat et qu'il a dirigé récemment une thèse sur l'identification des gestes d'études chez de bons élèves de terminale scientifique. Mais c'est surtout l'évolution temporelle des contrats qui l'intéresse. Et très tôt, Alain pensera la recherche d'un contrat, la chronogenèse et la topogenèse comme des paramètres interdépendants dont on sait, depuis les travaux sur la transposition et particulièrement ceux de Gérard Sansevi, que c'est la chronogenèse qui commente aux deux autres. Par ses travaux sur le temps didactique et sa façon d'aborder les questions en termes de ce qu'on appellera plus tard institution, rapport institutionnel et personnel par rapport à un objet de savoir, Alain Mercier participe donc à l'émergence de la théorie de la transposition et de la théorie anthropologique du didactique en laquelle la première a trouvé un élargissement. Farouchement, ses analyses didactiques s'appuient sur un postulat formulé par Chevallard en 88, à savoir une institution se définit d'abord par son domaine de réalité, soit, comme le souligne Alain, par un objet et un domaine d'intervention. Sa lecture de la théorie de Brousseau s'en trouve orientée, laquelle représente à ses yeux, au sens très littéral de chaque terme ainsi souligné, une théorie des situations didactiques. En effet, loin d'un regard sur l'action des sujets en termes de volonté individuelle ou collective, cette théorie l'intéresse par l'analyse qu'elle autorise sur la situation de leur action. C'est pourquoi, dit-il, je ne dirais pas que l'étude des stratégies des élèves d'une classe de mathématiques consiste à s'intéresser à la production des sujets épistémiques, mais bien plutôt que cela consiste à s'intéresser à la situation de leur action. On étudie ainsi des réalisations effectives d'un espace didactique scolaire dont on recherche les principales dimensions. Et d'insister, en ce sens, toute théorie didactique est pour moi d'abord, très fondamentalement, une théorie des situations didactiques. Dans la théorie des situations didactiques, Alain considère la notion de situation fondamentale comme modèle du savoir mathématique, en développant une vision anthropologique du cognitif dans la recherche en didactique à partir de théories, dont celle de Mauss, selon lesquelles les interactions relatives à la connaissance dans un groupe humain produisent des formes cognitives socialement stables, qu'elles soient de l'ordre des savoirs, des ostensifs ou des techniques. La didactique se donne alors pour objectif d'étudier les expériences humaines qui fondent ces objets lorsqu'il y a une intention didactique et en considérant, à la manière de Fleck, les élèves d'une classe comme collectif de pensée. On trouve là, dans un texte déjà ancien, et paraît-il publié à petite échelle, une première forme de sa lecture encore actuelle de la théorie des situations didactiques, comme une théorie constructiviste, non pas au sens de la cognition des personnes, mais bien au sens de la construction collective des savoirs dans les institutions. Cependant, Alain Mercier a été un des didacticiens les plus explicites sur la nécessité de dissocier situation fondamentale avec l'une quelconque de ses déclinaisons en situation didactique, et donc la nécessité d'étendre la notion d'adidacticité au-delà de celle de situation, préférant, comme il a dit, parler de jeu adidactique au lieu de situation adidactique pour n'utiliser le substantif situation qu'à coller au qualificatif didactique, au sens que je l'ai précisé tout à l'heure. D'abord, parce que si la théorie des situations didactiques spécifie les conditions et les contraintes qui font d'un tel modèle un enseignement efficace, il faut bien reconnaître, dit Alain, que ces conditions ne sont pas nécessaires. Des élèves, dit-il, apprennent quand même, même quand toutes les conditions ne sont pas remplies, ni des conditions suffisantes. Il y a des élèves qui n'apprennent pas malgré le fait que toutes les conditions soient parfois remplies. Quant aux contraintes, elles ne sont pas absolues à ses yeux. Ensuite, il voit le contrat didactique comme moyen d'identifier la limite de validité du modèle des situations adidactiques. Je le cite, « Les séquences les mieux organisées peuvent perdre toute efficacité didactique si, pour une raison qui reste inconnue, l'intervenant ne peut faire d'évolution du problème à l'élève, c'est-à-dire passer contrat didactique à propos d'un problème. » En ce point, ajoute Alain, nous pouvons être convaincus d'avoir à notre disposition une théorie au sens propre du terme, puisqu'elle rend compte de ses limites. Enfin, l'identification de telles situations ne garantit pas la généralisation de leur usage approprié. L'espace didactique semble soumis à des contraintes telles que cet usage n'apparaît pas aux différents acteurs comme une économie méritant l'investissement qu'il suppose. Que ces contraintes soient internes à la relation didactique, comme celles liées au contrat, au temps didactique, mais aussi à la mésogénèse, ou encore des contraintes externes, comme celles identifiées dans la théorie de la transposition didactique par Chevalard en termes d'écologie institutionnelle des savoirs. Quant à la notion d'adidacticité, ou plutôt la dimension adidactique des relations didactiques, elle signe, pour Alain, la visée de l'extinction du didactique, qui se doit d'être au cœur de toute relation didactique se voulant efficace. Et cet enjeu, dit-il, s'impose toujours au moins au moment de l'évaluation des effets de l'enseignement. Alain sait aussi, pour avoir analysé des biographies didactiques d'élèves, qu'il existe des épisodes au cours desquels l'élève rencontre la didacticité, dont la source n'est pas une situation, mais le fonctionnement temporel de l'enseignement, ce qui ne l'empêche pas de souligner que la création d'ignorance est une condition de l'apprentissage dans les institutions didactiques. Toutes ces raisons poussent Alain Mercier à considérer que la recherche de situations fondamentales et leur déclinaison en situations adidactiques pour les savoirs d'un programme d'enseignement ne suffit pas à l'étude du didactique, et qu'il faut se détacher d'une définition trop restrictive du programme épistémologique, comme il l'appelle, tel que d'aucuns ont pu le concevoir, et où, dit-il, l'enjeu disciplinaire de l'enseignement et de l'apprentissage pourrait être étudié dans le cadre d'une ingénierie désignée par le formateur et surtout observée par le didacticien, sans que les conditions de l'étude ne soient respectivement déclarées, prescrites, écrites, et dans lequel les difficultés des professeurs sont attribuées à leur insuffisance épistémologique. Son programme à lui, chercheur, se situe entre psychologie et anthropologie. Il s'agit d'observer pour décrire et comprendre le fonctionnement des institutions didactiques par une méthode clinique d'observation in situ de l'enseignement dit ordinaire. Apparaissent ainsi des phénomènes tels que le phénomène d'ostension dans les pratiques enseignantes observé par Marie-Hélène Salin et ses conséquences sur la transmission d'un rapport empiriste au monde. Dans cette approche clinique, l'analyse du savoir demeure cependant un pôle important pour Alain parce qu'il a appelé l'analyse ascendante de la transposition qui entend interpréter des traces recueillies dans l'observation témoignant du rapport aux objets de savoir identifiés par l'étude didactique. La théorie des situations didactiques est ainsi intégrée progressivement dans une modélisation plus globale qui la met dans la perspective qu'elle mérite, en même temps que cette modélisation revisite la notion d'institution à la lumière des niveaux de codétermination de l'action didactique de Chevalard. Dans ce modèle, l'interprétation, je cite Alain, des systèmes didactiques en termes d'institutions relatives à une discipline ouvre leur analyse en l'appuyant sur une notion largement étudiée, tout en conservant la spécificité des approches didactiques qui sont fondées sur le postulat que le savoir est le point de vue pertinent pour la compréhension des phénomènes d'enseignement et d'apprentissage. En effet, ces institutions sont de facto impliquées dans une structure sociale et donc conditionnées par elles. Elles se doivent d'être étudiées comme des systèmes relevant d'un espace-temps didactique, tel que j'ai tenté de le résumer auparavant, et où l'espace et le temps ne sont pas des entités séparées. Toute interprétation d'un fait s'analysant, comme le propose Chevalard, à partir du savoir, par la description des rapports des sujets au savoir selon leur position respective dans le système enseignant ou enseigné. Dans cet élargissement théorique, Alain Mercier est conduit alors à penser que toute recherche en éducation se devrait d'articuler trois dimensions, dont la première et la dernière relèvent encore actuellement à ses yeux plus des sciences sociales que de la didactique. La première dimension est l'étude des conditions sociales d'existence d'un type d'institution didactique en termes d'anthropologie des savoirs et de leur transmission, par exemple d'écologie sociale des institutions didactiques. La deuxième dimension est le fonctionnement institutionnel des systèmes didactiques en termes de didactique et plus précisément d'action conjointe des professeurs et des élèves en termes de topogénèse, mésogénèse et chronogénèse, ce que Gérard Sansevi développera tout à l'heure. Et la troisième dimension est la recherche des conditions psychiques, cognitives, collectives, d'existence de toute institution didactique en termes de théorie des sujets dans les institutions, par exemple à l'aide des notions de mémoire des sujets d'une institution, tel que le fonctionnement a pu être analysé finement par Yves Matron. Ce programme, qui garde une composante épistémologique importante, Alain prônant une collaboration serrée des didacticiens avec les philosophes des sciences, demeure cependant bien amarré à la théorie des situations didactiques. Mais les notions de situation didactique et de contrat didactique y sont prises en compte sous une forme nouvelle, à travers celle d'institution didactique et d'action didactique instituant cette institution. Les situations didactiques sont alors pensées comme temps d'une institution, afin de souligner, dit Alain, que l'épistémologie d'un savoir n'est pas une propriété intrinsèque du savoir comme objet, mais une propriété des rapports des sujets pris dans la situation à des objets qui leur sont proposés dans cette situation. Et les situations didactiques y sont aussi des descripteurs anthropologiques. Car d'une part, il ne suffit pas qu'une connaissance apparaisse, il faut encore un corps social pérenne pour la recevoir et lui permettre de se développer. Et que d'autre part, je cite toujours Alain, les savoirs ainsi constitués comme des connaissances explicitement partagées dans une institution doivent être reconnus dans un système didactique qui les intègre dans le mouvement temporel d'une construction disciplinaire. Enfin, l'observation comparative de l'enseignement des disciplines qu'il a initié avec d'autres chercheurs, comme Marie Schubauer-Léonie et Chantal Amadesco, et dont vous parlera Marie tout à l'heure, a conduit Alain à modéliser, pour les savoirs scientifiques du moins, quatre formes épistémologiques d'un objet de savoir enseigné. Fait d'expérience, résultat théorique, outil algorithmique et dispositif pratique. Et c'est bien là une modélisation qui est en résonance tant avec la variation des situations d'enseignement telles que l'envisage Brousseau pour tenir compte de cette variété épistémologique, qu'avec la caractérisation que Chevallard fait de l'activité mathématique en termes de praxiologie, ainsi qu'avec son modèle de l'étude et de la direction d'étude en termes de moment. Alors la boucle est ainsi bouclée. Mais je réalise qu'en schématisant ainsi une réflexion complexe par un patchwork d'extraits organisés à ma manière, j'enlève beaucoup d'épaisseur à l'analyse qu'Alain Mercier a construite pour problématiser les questions inaugurant sa carrière de chercheur. J'espère qu'il ne m'en tiendra pas rigueur. Vous aurez compris, en tout cas, qu'il était l'homme des synthèses, sans pouvoir être taxé de monsieur bricolage, et je ne doute pas que nous sommes très nombreux, ici et ailleurs, à pouvoir le remercier de ses apports si riches.